politique avec le père Marie-Dominique Philippe sur le deuxième livre d'Aristote, 16 janvier 1984, Saint-Joseph.
Un premier livre fondamental avec la découverte du bien et l'induction de la fin. Ensuite, les livres 2 à 7 qui sont les livres qui sont à la fois éthiques et politiques, qui sont le tronc commun sur l'analyse des vertus. Ensuite, les livres 8 à 10 qui sont proprement l'étude éthique, c'est-à-dire l'étude de la philia, l'étude du plaisir et l'étude de la contemplation. Et puis ensuite, le livre de la politique, qui est donc en continuité, puisque Aristote introduit le livre de la politique dans le dernier livre de l'éthique. Alors, dans le premier livre de la politique, on a vu qu'Aristote nous donnait les éléments. Alors, je crois qu'il est absolument nécessaire de garder ce livre 1 présent à l'esprit pour comprendre le livre 2. Alors, on s'était posé la question de savoir s'il y avait une nouvelle induction du bien. Alors, on peut se demander s'il n'y a pas une nouvelle modalité d'induction sans avoir proprement une nouvelle induction, une nouvelle modalité qui serait caractérisée par le tout. C'est-à-dire qu'on induit le bien à partir de la communauté au lieu de l'induire par rapport à l'individu. Mais ce n'est pas proprement une nouvelle induction. Bon, de toute façon, on pourra en discuter. Alors, on voit dans ce livre 1 le thème de la communauté, koinonia, le thème du bien, le thème du tout et de la partie. Puis ça, on verra tout à l'heure. Alors ensuite, le livre 3, qu'on traitera la prochaine fois, concerne la cité et le citoyen. C'est un livre qui est assez plus théorique. Les livres 4 à 6, c'est l'étude des différents régimes constitutionnels et leurs évolutions. Et puis les livres 7 à 8 sont des livres aussi plus théoriques sur la cité la meilleure et l'éducation. Alors on va voir que le livre 2 se trouve au centre de tout ça. C'est un livre d'introduction, qu'il est très dense. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes, mais il y a des petites perles au milieu du reste. Alors pour le livre 1 aussi, on s'en servira à la fin. Je pense que le livre 1, il y aurait une manière de l'analyser, qui est de le regarder suivant les 5 causes. Alors j'ai pas de place pour les marquer, mais enfin je peux vous les donner. On aurait la cause matérielle. Donc je reprends simplement les éléments qu'on avait vus la dernière fois, et je propose une certaine articulation. La cause matérielle, ça serait le rapport qu'on avait vu entre le dirigeant et les dirigés. Le rapport entre l'homme et la femme, le mari et la femme, et le rapport entre les parents et les enfants. Donc ça nous donne tous les éléments et les rapports fondamentaux. Ensuite, la cause efficiente, ça serait ce qu'on a vu dans le livre 1 aussi, la reproduction et la conservation, et puis le logos en tant qu'il est communicable. L'homme fonde une communauté parce qu'il a la parole, parce qu'il a le logos, et qu'il peut le partager avec les autres. Ensuite, la cause finale, on avait vu, c'est le vivre et le bien vivre. Ensuite, la cause formelle. Alors, la cause formelle, ça serait la justice ou la politeia. La politeia, c'est le régime politique. On pourrait identifier presque la justice et la politeia parce que Aristote dit dans les deux cas qu'elles sont taxis, c'est-à-dire qu'elles sont la règle de la cité. Et puis, on aurait la cause exemplaire, la loi. Et puis, les causes instrumentales, alors la propriété, la richesse, les instruments, l'art d'acquérir les richesses. Alors ce qui est intéressant, et ça nous servira dans la suite, c'est que quand on prend la cause efficiente, c'est-à-dire la reproduction et la conservation, et la cause finale, le vivre, on a, je dirais, tendu entre ces deux pôles, la famille et le village, puisque le village est une extension de la famille. Et puis entre le bien-vivre, la finalité du bien-vivre, et le logos, on a la cité. Donc on a comme deux étages. Et donc, l'analogie qu'on pourrait faire, c'est effectivement les trois genres, les trois niveaux de vie, sensibles, végétatifs, sensibles et spirituels, mais c'est plus deux niveaux de vie, parce que dans toute l'éthique et dans toute la politique, Aristote prend toujours une comparaison à deux étages. Il ne fait quasiment jamais une distinction comme telle entre sensibles, végétatifs. Il prend toujours ce qu'il appelle logon, alogon, n'ayant pas le logos, donc irrationnel et rationnel. C'est important de voir que son analogie, elle n'est pas absolument rigoureuse. Donc l'analogie de la psychologie, on verra par rapport à Platon que chez Aristote, elle n'est pas absolument fondamentale, c'est pas la clé. Alors que on verra chez Platon que la psychologie joue un rôle très très important sur le rapport entre l'individu et la cité. Alors on a vu aussi. Ça, c'est pour finir la toile de fond. dans le livre 1, l'importance de la famille, l'importance aussi des personnes, notamment dans le chapitre 13, où Aristote disait que les hommes sont plus importants que les biens, et que la richesse, et que l'art d'acquérir les richesses. On avait vu aussi l'importance de l'éducation. Alors, à la fin de ce livre 1, se posait un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus par ce livre 1. C'est le problème du rapport entre la partie et le tout. Le problème du contemplatif, Aristote, on voit bien que ça pose un problème, le contemplatif. Le rapport aussi entre l'autarkeia, donc l'indépendance, et la vie bonne. Aristote dit dans les deux cas qu'elles sont fins. Alors ça pose un problème, comment ça se fait qu'il y ait deux fins? Alors on voit que le livre 2, très rapidement, Aristote l'introduit en disant qu'il y a une partie qui sera plus théorique, qui regardera précisément les théoriciens, c'est-à-dire Platon principalement, et puis une partie plus pratique où il analyse les constitutions. La partie plus théorique, elle introduit au livre 3 et au livre 7 et 8, qui sont les livres théoriques, et la deuxième partie introduit au livre 4 à 6. Alors on peut aussi remarquer que, comme dans le De Anima, dans l'éthique anicomaque, dans la métaphysique, enfin l'éthique anicomaque, il faudrait repréciser, mais il y a très souvent chez Aristote un livre topique immédiatement après un livre introductif. On retrouve là dans le cas de la politique. Alors maintenant qu'on a la toile de fond, on va voir l'affrontement avec Platon. Alors, elle pose un problème, cette critique de Platon, parce que les commentateurs platoniciens ont dit qu'elle était rapide, qu'elle n'était pas approfondie, qu'elle ne portait que sur une partie du sujet, enfin que Aristote ne répondait pas du tout à Platon et qu'en plus il évitait le principal du problème politique abordé chez Platon. Alors on va voir si effectivement c'est vrai. De fait, Aristote est très virulent vis-à-vis de Platon. Je crois que c'est le lieu où Aristote est le plus violent par rapport à Platon. Il y a un endroit, bon, il dit les idées de Platon sont très séduisantes, mais la vérité est très difficile à atteindre. Il ironise. Il dit aussi ailleurs, le projet de Platon, c'est très bien de faire des projets, mais encore faut-il que ça soit réalisable. Et puis on verra qu'il commence tout de suite le chapitre 2 en disant, la thèse de Platon est insoutenable parce qu'elle est illogique, impossible, c'est ça, illogique, irréalisable et en plus indéterminée. C'est surprenant, comment dirais-je, la violence dont Aristote fait montre par rapport à Platon. Alors on verra dans quelle mesure cette violence est justifiée. Où il dit aussi, on verra que dans le livre 6 des lois, bon, vous voyez, la République, ça comporte quand même un certain nombre de livres. La critique d'Aristote porte surtout sur le livre 5. Et tout le problème de l'immortalité de l'âme, l'idée du bien, le mythe de la caverne, le problème de la justice, Aristote, je dirais, les élimine d'un geste de bras en disant simplement que c'est des considérations qui n'ont rien à voir avec le problème de la politique. Il faut voir si, effectivement, les contradicteurs d'Aristote ont raison. On verra ça. Alors, on va d'abord voir les points de l'argumentation. Bon, alors là, je vous rappelle rapidement la République. Alors, dans la République, dans les livres 1 et 2, il y a une étude. Le problème, c'est l'étude de la justice et de l'injustice. Ensuite, Platon ne pouvant pas comprendre, n'arrivant pas à analyser suffisamment bien l'individu, dit on va passer sur un modèle plus grand et on va passer à la cité. Donc, on voit là déjà qu'il y a une analogie très forte entre l'individu et la cité. Il passe, je dirais, sur la maquette de la cité pour mieux comprendre l'individu. Alors ensuite, il y a toute l'explication de la fondation de la cité. La cité est fondée sur l'individu. Alors elle est divisée en trois classes. Ça, le frère Bruno Marie nous l'avait déjà montré. La classe principale, c'est les gardiens, dont l'éducation est faite par le beau. Platon propose de mentir à tout le monde en expliquant que... en fabriquant un mythe pour justifier un certain nombre de castes. C'est-à-dire que quand on est chez les laboureurs, on ne passe pas chez les gardiens parce qu'on n'a pas d'or dans son... Enfin, on n'est pas... notre âme n'est pas composée avec de l'or. Elle n'est composée qu'avec du fer, je crois. Ou du bronze. Bon, ça c'est le livre 3. Ensuite, le livre 4, ça c'est très important, Platon explique que l'important, ce n'est pas le bonheur d'une classe déterminée, l'important, c'est le bonheur du tout. Il donne l'exemple d'une peinture. L'important, ce n'est pas le détail, c'est la constitution, c'est l'harmonie d'ensemble. Alors ensuite, il fait une étude des vertus de la cité, notamment la justice. Alors on viendra tout à l'heure sur la justice. Alors ensuite, dans un tout autre domaine, là il explique qu'il va proposer des choses tout à fait révolutionnaires et très difficiles à comprendre. Il explique que l'homme et la femme, en fait, ont même fonction, et la femme ne diffère de l'homme simplement parce qu'elle met les enfants au monde, mais sinon il n'y a absolument aucune autre différence, et il n'y a pas de raison que les femmes n'aillent pas se combattre avec les hommes, et qu'elles ne subissent pas la même éducation, qu'elles n'aillent pas au gymnase avec les hommes. Donc il y a quasiment une identité entre l'homme et la femme au niveau des fonctions. Alors ensuite, la deuxième vague, c'est le communisme des femmes et des enfants. Alors, Platon propose la communauté... chez les gardiens, la communauté des femmes et des enfants. Alors ça doit s'organiser de manière assez complexe, parce qu'il faut mentir aux gens pour pouvoir les marier entre eux suivant suivant une certaine sélection. Il faut marier les gens qui sont vigoureux ensemble, et ceux qui ne sont pas vigoureux, il faut leur mentir, pour trouver moyen de les faire régresser dans la classe inférieure, ou bien qu'ils n'aient pas d'enfants. Alors ça implique aussi une sélection des enfants. On tue ceux qui ne sont pas tout à fait normaux, et on enlève les enfants aux mains de leur mère, et on se débrouille pour que leur mère ne puisse pas les reconnaître. Parce que bien sûr, c'est la mère qui allait de son enfant. Alors, les mères allaient toujours leurs enfants, mais on les a camouflés pour pas qu'elles reconnaissent leurs enfants. Alors, évidemment, tout ça, c'est absolument merveilleux, parce que plus personne ne sait qui est le frère de qui, ni qui est la sœur de qui. Alors, tout le monde s'appelle frère et sœur. Alors, bien sûr, ça constitue la partie la plus excellente de la politique, parce que c'est ce qui constitue l'unité de la communauté. L'unité devient la cité devient identique à l'individu, parce que tout le monde étant lié par cette espèce d'indétermination, tout le monde réagit en même temps aux mêmes choses. Par exemple, personne ne dit ceci est à moi, puisque tout est à tout le monde. Donc on dit à la fois ceci est à moi et ceci n'est pas à moi. Il n'y a pas de discorde non plus, parce qu'il n'y a pas de propriété, donc il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de sévice, parce que tout le monde croit avoir des parents autour de soi, des frères ou des sœurs, donc personne ne frappe personne. Alors ça, c'est bon, on a le... Alors Platon réexplique que les gardiens ont un certain bonheur précisément par cette harmonie. Alors ensuite, ce qui prend beaucoup de place en fait dans la République, mais auquel Aristote fait très peu d'allusion, c'est le fait que celui qui dirige la cité, c'est le philosophe roi, qui contemple la justice en soi et le beau en soi. Puis ensuite, il y a toute l'allégorie, bon, ça normalement vous connaissez, l'allégorie de la caverne. Et puis ensuite, l'analyse des mauvaises constitutions, la condamnation de la poésie, et puis le thème de l'immortalité de l'âme. Alors, Aristote, face à ça, va montrer, il dit au début de son chapitre, c'est illogique. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet entre ce qu'a dit jusque-là Platon et ce qu'il commence à dire ici. La deuxième chose, c'est absolument inapplicable. Et en plus, c'est indéterminé. C'est-à-dire que Platon n'a pas donné les éléments d'application concrète de ce qu'il donne. Alors, ce sur quoi porte le principal de sa démonstration, c'est montrer que ce que donne Platon, ça aboutit exactement à l'inverse de ce qu'il voulait faire. Une unité absolue, ça aboutit à la destruction de la cité, parce que la cité est normalement composée d'éléments différents spécifiquement. Donc, mettre tout le monde sur le même plan, c'est détruire complètement la cité. Ensuite, ça détruit l'autonomie, parce que si la cité était l'équivalent d'un individu, un individu est beaucoup moins autonome qu'une famille, et a fortiori qu'une cité. Donc on voit que c'est le thème de l'unité, en fait, qui est la cause de tout. De la même manière, que tout le monde dise « ceci est à moi » ou « ceci n'est pas à moi », c'est-à-dire que tout le monde est tout en commun, le fait que tout le monde dise « ceci n'est pas à moi », ce n'est pas une preuve que tout le monde s'entend bien. Ça prouve simplement qu'on a imposé un certain langage, mais la réalité ne correspond pas nécessairement au langage qui a été imposé. Alors il dit notamment « si tout le monde a tout en commun, on ne se souciera plus du bien commun ». Donc là encore, corruption de la cité. Ça impliquera des désordres et des sévices, parce que tout le monde ne croira pas être entouré de parents, mais tout le monde, plus personne ne saura qui sont ses parents, et donc c'est l'instinct, c'est le naturel qui reprendra le dessus, et on n'aura pas de raison, on considérera tout le monde comme un étranger. Ensuite, il n'y aura plus de concorde, parce que les liens personnels seront complètement supprimés, puisque de fait, il n'y a plus de lien de parenté, il n'y a plus de famille. Donc il n'y a plus de lien personnel. Tout le monde est le frère de tout le monde, tout le monde est la sœur de tout le monde. Alors ça pose bon, plein de problèmes, savoir comment est-ce qu'on fera pour ne pas se marier avec sa mère. Ou... Bon, ça pose des problèmes auxquels enfin, Platon ne résout pas toujours très clairement. Bon, Aristote montre aussi que le transfert des enfants est irréaliste parce qu'il n'y aura jamais possibilité de camoufler complètement la ressemblance entre un fils et sa mère. Et puis en plus, ça aboutira à la destruction des liens familiaux. Alors, de la même manière, la communauté de la propriété qui apparaît à ce niveau-là, elle sera... Alors, il dit qu'il conclura en disant qu'elle est impossible, tout simplement. Pour l'homme, c'est impossible d'avoir tout en commun au niveau des biens. Premièrement, il y aura un problème entre l'équilibre entre le fruit et le travail. Parce que si la propriété est commune, il y en a qui ne travailleront pas du tout, mais qui auront quand même un revenu commun. Bon, c'est exactement le problème qu'on a en Russie. Et il y en a qui travailleront beaucoup et qui, comment dirais-je, qui protesteront parce qu'on ne leur donne pas assez. Donc ça provoquera des discordes. Ensuite, ça supprime, alors ça c'est très important, le plaisir de la propriété. Parce qu'il est légitime d'avoir un certain amour de soi et que la propriété correspond précisément à cet amour de soi légitime. Alors ça, on pourra revenir dessus. Ensuite, ça supprime certaines vertus parce qu'il n'y a plus la vertu de tempérance. Puisqu'on n'a plus à exercer une certaine vertu par rapport à la femme d'autrui, puisque les femmes sont à tout le monde. Et puis, on ne peut plus non plus exercer la vertu de libéralité, puisqu'on n'a plus rien du tout. Donc, on ne peut pas prodiguer, on ne peut pas donner, on ne peut pas... Alors ça, ce qui est... Et puis ensuite, Aristote dit, ce n'est pas du tout la propriété qui est la cause des dissensions entre les gens. Ce qui est la cause des dissensions entre les gens... C'est la perversité humaine. Et donc, il est nécessaire de les éduquer. Enfin, alors ça c'est le troisième plan, le régime politique de Platon n'est pas défini dans son ensemble. Il parle beaucoup de la classe des gardiens, mais il ne parle pas du reste. Notamment, il ne parle pas du tout de la classe des laboureurs, qui est une des trois classes du début, des agriculteurs. Il ne définit rien du tout à leurs propos. Et Aristote conclut sur quelque chose de très intéressant. Il dit, le bonheur n'est pas comme le père. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas additionner des gens malheureux pour donner quelque chose d'heureux. Donc ça, c'est la réponse surtout à ça, le bonheur du tout. Alors il faudrait voir maintenant, vous voyez, faire des petites flèches comme ça, pour voir tout ce que Aristote démolit chez Platon. C'est simple, il démolit quasiment tout. Enfin, je pourrais vous montrer le tableau. Il touche absolument à tout. Donc, sous l'apparence de traiter des points très particuliers, en fait, il touche pratiquement à toute la République. Ce point-là, il l'élimine en disant, ça c'est dans le chapitre 6, là on a fait que les cinq premiers chapitres, la République est remplie de digressions étrangères au sujet. Ça ne veut pas dire qu'il évite, je dirais, l'affrontement avec Platon, mais il le renvoie ailleurs. La critique du bien, c'est dans l'éthique. Le problème de la contemplation, de l'immortalité de l'âme et de la contemplation, ça sera ou bien dans la philosophie du vivant, la philosophie de l'âme, ou bien aussi la contemplation dans l'éthique. La justice, elle sera traitée en éthique. Et l'éducation, il en parle dans la suite de son livre. Alors oui, ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'argumentation d'Aristote est très bien structurée, parce qu'il commence par dire, l'erreur de Platon, c'est son hypothèse de départ, c'est ce qu'il dit sur l'unité. C'est de dire, l'unité, la meilleure pour la cité, c'est celle qui est équivalente à celle de l'individu. Ensuite, il démontre comment cette unité aboutit à l'inverse de ce que Platon voulait. Et ensuite, il revient sur le thème de l'unité en montrant que, en fait, l'unité absolue n'est pas le but que doit chercher la cité. Alors, juste un petit mot sur le chapitre 6, qui est le chapitre qui critique les lois. Alors, ce chapitre pose plus de problèmes que les précédents parce que, d'abord, c'est un chapitre plus pratique, parce que les lois, c'est un livre beaucoup moins théorique que la République. Vous savez que c'est un des derniers livres de Platon, où il y a un certain nombre de mesures beaucoup plus pratiques que dans la République. Alors, de fait, là, Aristote est un peu rapide. Il y a des points sur lesquels il simplifie un peu les idées de Platon, et il n'est pas toujours très juste dans la manière dont il répond. Alors, effectivement, ce chapitre-là, lui, pose un problème. Et puis, il est un peu dur, parce qu'il dit « la République, les lois... » En fait, Platon revient à son système précédent de la République. Or, quand même, c'est très net que dans les lois, Platon fait un effort de réalisme qui est absolument incomparable par rapport à la République. On peut même se demander si c'est pas d'ailleurs, je dirais, sous l'impulsion sous les critiques du disciple, que la politique de Platon se fait beaucoup plus réaliste. Alors, ce qu'il faudrait voir, ça, pour les lois, c'est, il faudrait étudier tout le livre, parce que il y a des choses disséminées dans le livre, c'est pas très structuré au niveau théorique, et donc il faudrait tout analyser pour voir comment si Aristote répond correctement ou non à Platon. Alors on voit donc en fait Aristote répond parfaitement à Platon parce qu'il aborde ce que Platon considère comme la partie centrale de son œuvre, la partie la plus excellente de son système, c'est-à-dire la communauté des femmes et des enfants. Ça peut apparaître comme un point particulier. Pour Platon, Platon dit bien, c'est le bien le plus grand de la cité, et c'est ça qui fait l'unité de la cité. Il dit donc, c'est la partie la plus excellente de tout ce qu'il a constitué jusque-là. Alors, on peut bien sûr voir tout de suite l'articulation entre deux pensées philosophiques différentes. D'une part, celle d'Aristote, dont je dirais qu'elle est réaliste, bien sûr, mais elle est surtout analogique. C'est très important, ça. Je crois que dans l'éthique, le frère Benoît y faisait allusion l'autre jour. C'est la même chose. Aristote reproche à Platon d'avoir une idée univoque du bien. Ben là, c'est la même chose. Il reproche à Platon d'avoir une idée univoque de l'unité. Platon ne conçoit pas l'unité de l'individu autrement que celle de la cité. Or, tout ce que montre Aristote, c'est que précisément, d'abord, l'unité n'a pas à être absolue. Et puis, une chose, l'unité de la cité, autre chose, celle de l'individu, autre chose, celle de la famille. Alors, on voit que, ceci dit, cette critique de l'unité, ça présuppose le livre Delta de la métaphysique, où il y a toutes ces considérations sur l'un, sur les différentes modalités de l'un. Alors, on voit bien sûr aussi l'importance qu'Aristote attache aux liens personnels. Quand il souligne la nécessité des liens familiaux, quand il souligne la nécessité de la filia, on reviendra dessus, mais il dit la filia, c'est le bien le plus grand des cités. Alors oui, bon, pour les marquer de manière un peu caricaturale, on pourrait dire que la politique de Platon est une politique qui descend du ciel, elle est issue de la contemplation et elle a un caractère très arbitraire, alors que la politique d'Aristote part d'expériences fondamentales et est très souple par rapport à ce qu'est l'homme. Alors on voit ce qu'on retrouve un peu tout au long du problème politique, c'est le problème entre la communauté et le bien. Alors ça, on verra que c'est un problème qui me semble absolument fondamental dans toute la politique et qu'on retrouve partout. C'est comment précisément unir la communauté et le bien. C'est tout le problème de l'unité, c'est ça. L'unité, c'est réussir à faire le lien entre quelque chose qui est divers, qui est composé d'hommes très différents, avec ce qu'ils ont de diversité, avec une finalité une, le bien. C'est tout le problème, ça le père le soulignait, entre le problème entre l'immanence de la communauté et le caractère transcendantal du bien. Alors on peut dire aussi que, bien sûr, ce qui détermine une grande partie de la vision de Platon, c'est son dualisme. C'est évident que chez Platon, la place du corps n'est pas très importante. Il sert pour la guerre, mais sinon il est plutôt réduit à l'esclavage. Ça, c'est tout le problème de l'articulation entre la phusis et la loi, c'est-à-dire le nomos, la loi. On dirait aujourd'hui entre la nature et la culture. Or, chez Platon, c'est la loi qui prend tout. Il dit bien, et ça c'est une grande différence par rapport à Aristote. Aristote dit, ce qui fait l'unité, c'est l'amitié et c'est l'éducation. Platon dit, alors ça il ne le dit pas immédiatement là, mais dans un des livres, je ne sais plus dans quel livre, entre 6 et 10, au beau milieu d'une phrase, il explique que l'unité de la cité, même si c'est un peu difficile, au besoin, on la fera par la contrainte. Alors que chez Aristote, précisément, on l'a déjà vu dans le livre 1, le caractère de la phusis, c'est très très important. Il y a un respect chez Aristote de l'aspect naturel. L'aspect culturel, je dirais, colle parfaitement à l'élément naturel. Alors que chez Platon, mais ça c'est le caractère de son dualisme, c'est un peu plaqué l'un sur l'autre. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que Aristote, critiquant l'ensemble du système platonicien, il critique non seulement la justice platonicienne, parce que la justice platonicienne, la justice dans la cité, c'est de tenir sa place. C'est-à-dire, c'est de rester dans la case où on est et de ne pas aller voir dans la case suivante, ni dans celle d'avant. C'est très caractéristique parce qu'il définit la justice parce qu'il pourrait être un de ses effets et pas par sa cause. Aristote dira la justice, c'est une certaine égalité entre des gens différents, une égalité proportionnelle entre les gens. Donc Aristote regardera ce qu'est la justice, Platon nous donne une de ses causes et il remplace la justice par une de ses causes, si bien qu'il lui donne un caractère univoque qui est très frappant. Alors non seulement Aristote donc critique par ce biais-là, critique de la communauté des femmes et des enfants, donc, par cette critique de l'organisation de la cité platonicienne, il critique toute l'idée de la justice, donc toute la justice en soi chez Platon. Il critique aussi, je dirais, la place entre la contemplation et le problème politique. Chez Platon, la justice en soi, elle est une, et à partir de la justice en soi, on comprend très bien que la vision qu'il a de la cité est très déterminée. Donc, critiquer la communauté, le projet platonicien, c'est critiquer l'efficacité de cette contemplation de la justice en soi. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant quand même. On a vu, je vous ai dit que Aristote était très virulent par rapport à Platon. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il dit, je vous ai dit tout à l'heure, que c'était illogique. Alors, ça peut apparaître comme une tentative, je dirais pas, de disculper Platon, mais s'il montre que c'est illogique, il pourrait ne démolir que la communauté des femmes et des enfants et ne pas toucher au reste. Donc respecter le point de vue de la justice et le point de vue du bien et de la contemplation. En fait, chez Platon, ça lui apparaît comme tout à fait nécessaire. Si Platon ne disait pas que c'était la partie la plus excellente de son système, effectivement, Aristote, je dirais, parviendrait à disculper Platon en disant, bon, y a quelque chose au milieu de la République platonicienne qui n'est pas cohérente avec le reste, c'est ça que je critique, mais le reste, c'est très bien. En fait, il ne peut pas faire ça parce que Platon affirme que c'est la partie la plus excellente de son système. Et donc, en touchant, je dirais, sur le nœud vital de la République, il fait tout sauter. Bon, alors, je vais très rapidement vous parler des chapitres. Les chapitres 6, parce que le chapitre sur les lois, je crois qu'on peut le ranger plutôt du côté de l'analyse des constitutions, parce qu'il a un caractère très pratique. Je dirais que l'analyse des constitutions, alors il y a la constitution de Phaléas, la constitution de Carthage, la constitution de Lacédémone, enfin il y a toute une liste de constitutions. Ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'on voit que Aristote dégage tous les éléments pour l'analyse des livres suivants. Donc, en fait, bon, à première lecture, ça paraît pas très intéressant, mais si on note tous les éléments qu'Aristote souligne dans cette critique des constitutions, on a absolument tous les éléments des livres, surtout des livres 4 à 6, et puis des livres 7 et 8. Donc, on voit déjà se dessiner chez Aristote une certaine vision de la politique. Alors là, je vous donne rapidement les éléments. Bon, on voit apparaître les six types de politéia, donc les six types de régimes dont Frère Benoît nous a parlé au cours d'éthique. Aristote prône déjà un juste équilibre entre ces différents, entre les trois types fondamentaux de politéia, les trois types positifs, c'est-à-dire la démocratie au sens positif du terme, l'aristocratie et la monarchie. Il prend l'exemple de Carthage. Et puis il souligne aussi la nécessité d'un équilibre entre les élites, donc l'autorité, et puis le peuple. Ça, pour lui, c'est très important. Ensuite, il donne un certain nombre de conditions de possibilité de la réalisation d'un État comme ça. Notamment, il souligne la nécessité du lien entre la démographie et la propriété. On ne peut pas donner peu de terres aux gens et leur demander d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, ou bien il faut réguler la naissance des enfants, ou bien il faut donner plus de terres aux gens. Et il faut leur donner des terres proportionnellement au nombre d'enfants qu'ils ont. Il faut aussi avoir une armée efficace, mais pas trop efficace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme Sparte, il ne faut pas tout miser sur le point de vue du courage et de la guerre, parce qu'à ce moment-là, il y a des conséquences catastrophiques, parce que les femmes restant au foyer, elles deviennent insupportables. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'il y a tout un chapitre où il décrit les catastrophes que donne le fait d'avoir laissé les femmes Sparte seules dans leur ville, de fait, ça démolit toute l'unité de la ville, et non, ça a des répercussions même sur l'économie. Il y a toute une petite, je dirais, une analyse de la psychologie féminine qui est très intéressante. Alors, il dit aussi qu'il faut, il souligne l'importance du sérieux de la politique face à la corruption et face à la nomination des magistrats. Il souligne bien qu'on nomme un magistrat en fonction de sa vertu, pas en fonction de son argent ou en fonction de son succès. Et puis, aussi par rapport aux lois, il ne faut pas changer de loi tout le temps. Il ne faut pas être immobile, il ne faut pas rester déterminé à Dunum, mais il ne faut pas changer les lois tout le temps parce que la loi prend son autorité de la coutume. Donc il faut du temps pour qu'une loi s'enracine, et c'est parce qu'elle devient enracinée dans les coutumes qu'elle a une véritable autorité. Et puis ensuite, il souligne, alors ça c'est très important, le point de vue de l'éducation. Il dit bien, enfin, on a l'impression que chez lui, tout dépend de l'éducation. Il dit, c'est très bien d'égaliser les fortunes, mais commençons par égaliser les appétits. Donc je dirais les instincts. Éduquons par les vertus de tempérance et de libéralité, du courage. Alors il souligne aussi qu'il ne faut pas être univoque dans l'éducation, il ne faut pas éduquer tout le monde absolument de la même manière, ça dépend du régime politique dans lequel on se trouve. Et puis il souligne aussi la nécessité de la participation du peuple à l'autorité de la cité, d'une manière ou d'une autre, pas d'une manière absolue, mais d'un moyen de contrôle sur une partie de l'organisation civile. Et puis, alors ça c'est très important, on reviendra dessus tout à l'heure, il souligne la nécessité de garder un temps de loisir. Alors loisir, ça ne nous dit rien du tout, mais en grec, c'est scola. C'est le temps libre dont il dit dans le chapitre 10 de l'éthique à Nicomaque que c'est le temps qui est pour la contemplation, qui peut servir à la contemplation, qui est une disposition à la contemplation. Et il dit que c'est une des tâches les plus essentielles du législateur de garder un temps de loisir aux magistrats, donc à ceux qui ont l'autorité. Alors ça, on reviendra sur le... Alors on peut dire que ces chapitres, donc 6 à 12, c'est un peu comme l'expérience fondamentale de la politique. Vous voyez, c'est comme un répertoire d'un certain nombre d'expériences qu'à son époque on avait vécues et sur lesquelles il va réfléchir. C'est pour ça qu'on a en germe, alors en germe seulement, il ne faut pas donner au livre 2 quand même, c'est pas toute la politique, mais il y a en germe tous les éléments dont il va servir ici et ici. Voilà, alors maintenant on va essayer rapidement de comprendre, parce que ça c'était par rapport à Platon et puis par rapport au livre plus pratique. Donc vous avez vu que Platon s'introduit plus à un aspect théorique et les livres pratiques plus à une analyse pratique. Alors maintenant il y a un certain nombre d'éléments plus philosophiques, donc dans la perspective d'Aristote, qu'il va falloir essayer d'agencer avec ce qu'on sait déjà du livre 1. On a vu dans le livre 1 que la fin de la cité c'était c'était la vie bonne et c'était l'autarcie. Or là, Aristote nous dit le plus grand bien des cités, c'est l'amitié. Il nous parle de l'autarcie, il fait allusion aussi à la concorde à un moment. Il faut voir comment est-ce qu'on peut agencer tout ça. Alors la première remarque que je ferai, c'est le fait, là je reprendrai ce que dit Pierre dans son commentaire, c'est le fait que le citoyen, Aristote parle du citoyen. Dans le livre 1, il n'a pas parlé du citoyen. Et puis il dit qu'il va prendre un nouveau point de départ naturel, un nouveau point de départ, donc un point de départ naturel. Alors je dirais qu'en parlant du citoyen, Aristote commence à s'engager dans l'analyse il prépare le livre 3. Alors ça, on verra, la prochaine fois, on aura le séminaire sur le livre 3. Mais donc, il revient au problème du tout et de la partie. Et puis, en disant qu'il prend un nouveau point de départ naturel, il souligne le caractère de la phusis, qu'on avait déjà très présent dans le livre 1. Et puis, il parle de la koinonia. Donc, le problème de la communauté. Donc, il reprend, je dirais, l'élément tout à fait fondamental qu'on avait ici. Il repose, d'une certaine manière, le problème entre la communauté et le bien. Donc, il repose le problème clé de la politique. Alors, on voit qu'on a le problème du tout et de la partie, qu'on a le problème de la koinonia et du bien, et puis on a le problème qu'on a surtout face à Platon, entre phusis et loi. Alors, il faut voir un peu comment tout ça s'organise. Le problème entre le tout et la partie, comme le problème entre la koinonia et le bien, C'est le problème de l'unité. Comment est-ce qu'un tout est tout? Parce que on peut être composé de parties sans être un tout. Il peut y avoir un certain nombre d'éléments sans que ça forme un tout. Alors Aristote dit que la cité forme un tout. Alors, c'est là qu'on peut se demander, est-ce que le tout peut exister sans qu'il y ait une fin commune? Un tout composé de parties qui sont des hommes, peut-il avoir une unité qui vienne d'autre part que de la fin commune? Même chose pour la koinonia et le bien. Comment peut-il y avoir un lien entre cet élément plus immanent de la communauté et cet élément plus transcendant du bien, si ce n'est par une fin commune, donc par un bien commun, entre les différents éléments qui constituent la koinonia? On voit d'une certaine manière que, en critiquant la République, donc en touchant le problème de l'unité, Aristote se situe, je dirais, au cœur du problème de la politique. Parce que le problème de l'unité, c'est le problème politique, pas par excellence, parce qu'il y a tous les autres, mais c'est quand même un problème clé. Bon, alors on va essayer d'organiser les différents éléments qu'on a juste. Donc Aristote nous a dit que le système platonicien détruisait l'autarkeia, dont on a déjà parlé dans le livre 1, donc l'autarcie, et puis la concorde. Alors en grec c'est homonoétikon. Dans la traduction de Tricot ça y est pas. Mais c'est en fait dans le grec c'est homonoétikon. Tricot le traduit autrement, mais dans la tradition des belles lettres il y a bien traduit concorde. On verra, c'est intéressant, il n'y a que deux fois où Aristote parle de la concorde dans tout le livre de la politique. Alors que c'est un problème clé. On pourra se demander pourquoi. Et homonoétikon. Alors ça, c'est ce qu'il faut préserver. Je dirais, c'est ce qui fait, d'une certaine manière, c'est la finalité qu'il faut préserver. Et pour ça, Aristote propose la philia et l'éducation, la paideia. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la philia, il nous dit que la philia a pour mobile, donc a pour cause dans l'homme, la propriété et l'affection. Ça c'est très intéressant parce que si la philia a comme mobile la propriété, il faut préserver les biens personnels. Donc on voit qu'en fait, en répondant à Platon, il touche plein de problèmes fondamentaux de la politique. Il faut préserver la propriété. D'abord parce que c'est impossible de vivre tous avec une propriété qui est commune à tous, mais aussi parce qu'il faut préserver la philia. Alors c'est pour ça qu'il défendra, effectivement, qu'il faut, même si on met certaines choses en commun, il faut garder des biens personnels. Et puis la deuxième chose, il dit, c'est l'affection. Alors c'est intéressant parce qu'en grec, c'est agapetos. Alors il dit qu'il faut... La deuxième cause de la philia, c'est l'affection. Et pour conserver l'affection, il faut conserver les liens familiaux et les liens personnels. Donc on voit un peu l'articulation philosophique sous-jacente à la critique de Platon. Alors, arrivé ici, on peut s'arrêter juste une minute pour voir tous les éléments qu'implique cette analyse philosophique de la politique. On a vu que l'éthique est présente. On l'a vu par le bien, on l'a vu par la philia. On a vu que la métaphysique était présente par le problème de l'un et par le problème de l'analogie de l'un. On peut même se demander si l'importance qu'Aristote accorde, alors à la personne, il ne parle pas de la personne, mais dans toute cette critique de Platon, l'importance de la personne, enfin, on voit tout de suite que c'est la personne qu'Aristote défend dans ce communisme de la famille. Et on peut se demander dans quelle mesure il n'y aurait pas, dans cette critique de Platon, et dans la politique, je dirais une vision métaphysique de la personne. Je ne dis pas une métaphysique de la personne, Aristote n'a pas fait de métaphysique de la personne, je ne crois pas qu'il aurait eu même l'intention d'en faire une, mais s'il n'y a pas une vision sur la personne comme un certain absolu qui est sous-jacente à tout ça. On voit aussi, quand il dit que dire ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, ça ne prouve pas l'unité, il dissocie le lien entre le langage et la réalité. Mais il dit aussi, ne plus pouvoir appeler les gens par leur nom, c'est finir par atteindre les relations personnelles elles-mêmes. Parce que si on ne peut plus appeler les gens par leur nom, l'amitié entre les gens sera diluée. Donc il y a tout le problème, je dirais, entre le langage et la réalité. Il faudrait relire le chapitre 1 du Père Herménéas, où il dit que les paroles sont un signe de la pensée. Et puis il y a aussi l'analogie en permanence qu'on a vue surtout dans le livre 1, qui est l'analogie avec le problème de l'âme. Donc on voit que l'analyse politique elle-même implique un certain nombre de branches philosophiques. Elle ne les synthétise pas parce qu'elle n'est pas au-dessus, mais elle implique toutes ces visions philosophiques pour pouvoir avoir une certaine vision de sagesse sur la situation concrète. Alors maintenant, on va voir le problème entre ces éléments. Dans le livre 1, Aristote alors nous parle de Eudzen, la vie bonne, et il nous dit c'est la fin de la cité. Alors on a deux fins. Et là, il semble nous dire que c'est la philia qui est la fin. Alors, je pense qu'on peut identifier la vie bonne et la concorde. Parce que, la concorde, c'est l'unité des citoyens, puisque c'est la pensée une. Et c'est ça, quand on lit notamment, quand on relit après le livre 7, c'est ce qui semble être la vie heureuse pour le citoyen. C'est l'unité entre tous les citoyens. Donc on pourrait d'une certaine manière identifier la vie bonne et la concorde. Alors ça ne solutionne pas complètement le problème, parce qu'il nous reste deux fins, la concorde et l'autarkeia. Et alors c'est là que je me demande si ce n'est pas le même bien commun, mais sous deux aspects différents. Parce que l'affirmation de l'autarkeia comme fin et la vie bonne comme fin est tout aussi forte chez Aristote pour l'une et pour l'autre. Est-ce que ça ne serait pas les deux aspects d'une même fin? Est-ce que le bien commun ne serait pas appréhendé par l'homme d'une manière complexe? D'un côté, du côté plus de l'adgéré, et de l'autre côté, plus du facere. Alors là, on retrouve presque une disperse sur la coopération. Et l'autarkeia, ça serait l'équivalent de l'œuvre commune. L'autarkeia, c'est l'autonomie, pas simplement au niveau économique, mais au niveau politique. Est-ce que ça ne serait pas l'œuvre propre, donc le bien commun vu du côté plus du facere? Et si la concorde, ça ne serait pas le bien commun vu plutôt du côté de l'adgéré? En voyant que les deux sont absolument indissociables. Il ne peut pas y avoir d'autonomie s'il n'y a pas d'unité entre les citoyens, mais il ne peut pas non plus y avoir de concorde s'il n'y a pas une certaine autonomie. Une communauté de gens qui s'entendent très bien, mais dans laquelle il n'y a absolument aucune organisation, c'est une communauté qui ne peut pas survivre, sauf si elle est contemplative. Alors, effectivement, ceci dit, dans l'ordre entre les deux, alors ça, on retouche tout le problème de l'articulation entre l'éthique et la politique. Il faut qu'il y ait un certain ordre entre les deux. Et l'ordre, ça ne peut être que la concorde, qui est le bien commun, vu de manière ultime. Mais je ne crois pas que la concorde puisse se comprendre absolument sans l'autarkeia. Et à ce moment-là, on verrait qu'effectivement, l'éthique enveloppe toute la politique. Et que tout le livre de l'éthique est absolument nécessaire pour comprendre que la concorde, qui est une philia, dans le livre de la politique, Aristote nous dit que la concorde est une philia. Alors c'est là qu'on peut se demander il faudrait reprendre, vous voyez, tout reprendre en regardant le chapitre 1 du livre 1, où Aristote nous dit que le bien humain et le bien politique sont identiques. Est-ce que ce bien humain, ça ne serait pas la philia? Parce que je dirais, dans cette perspective politique, la concorde est la disposition quasiment la plus parfaite à la philia en tant que lien personnel. Donc, dans cette ligne-là, le bien humain et le bien le plus proprement humain, puisqu'on a vu que la contemplation avait quelque chose de divin, ça serait la philia. Alors, on retrouve toujours, vous voyez, toujours la koinonia et le bien. La philia du côté du bien ultime, et la koinonia du côté de l'autarkeia. Alors, la philia serait donc la fin de l'homme, qui à la fois sert de disposition à la concorde. D'un point de vue génétique, les liens personnels permettent la concorde. Mais d'un point de vue de nature, donc d'un point de vue de perfection, c'est la concorde qui est une disposition au bien personnel. D'autant plus que la filia
et la concorde sont aussi, et je veux dire, et la communauté sont toutes les deux des koinonia, des mises en commun. Donc effectivement, je dirais que la concorde est encore plus une disposition par rapport à la filia, parce qu'elle s'enracine dans le point de vue politique qui implique déjà une mise en commun. Donc elle dispose beaucoup plus à la filia qu'à la contemplation. Ça me semble assez évident. Et à ce moment-là, on comprendrait que dans la vision du chapitre 1, il puisse... Alors, Aristote ne le dit pas comme tel. Est-ce qu'il pouvait le dire à son époque? Ça, on pourra en discuter. Mais si la filia n'est pas ce bien à la fois politique... Alors, la filia et la concorde, il faudrait voir, unir presque les deux, ne sont pas à la fois le bien politique et le bien proprement humain. Voilà. Puis pour finir... Oui, alors, il y aurait le problème de l'éducation. Le problème paradoxal de l'éducation, qui à la fois est dans la politique, puisque Aristote dit l'éducation fait l'unité poiein, je ne sais pas comment ça s'écrit, enfin si je sais comment ça s'écrit, mais pas comment ça se dit, fait l'unité de la cité. Donc l'éducation est à la fois dans la politique et à la fois elle est au-delà de la politique, puisque c'est elle qui forme à la vertu et c'est elle qui permet ultime de l'homme, dans la mesure